point.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, Emmanuel Bastide qui parle comme elle peut aujourd'hui. C'est l'été chez 7 milliards de voisins. Et toutes mes excuses les voisins pour ma voix franchement défaillante, c'est la climatisation. Avec notre série d'été, donc Vivre en ville. Hier, nous étions dans la ville inventée, Brasilia au Brésil. Et aujourd'hui, nous restons dans l'hémisphère sud, vivre dans une ville entre deux crises, Buenos Aires, en Argentine. Bonjour Marine de la Moissonnière.
Bonjour.
Vous présentez les journaux sur RFI. Vous avez vécu 8 ans comme correspondante de Radio France dans la capitale argentine. Une ville entre deux crises, c'est le fatalisme argentin qui vous fait dire ça?
Oui, c'est vrai. Ben, c'est ce que disent tous les Argentins. Il y a une crise tous les 10 ans. Alors quand on vous dit ça, vous trouvez que c'est un peu exagéré. Puis quand vous regardez l'histoire, en effet, c'est ça. Dernière crise en 2001-2002, puis la crise de 2008-2009. On y est presque aux 10 ans. Donc c'est voilà.
La crise, les crises en Argentine laissent des traces bien sûr indélébiles sur les mentalités, sur la façon de concevoir la vie, rebondir aussi toujours sans vraiment croire peut-être à un autre futur. Hein. C'est à la fois un mélange d'esprit positif et réaliste.
Résignation.
Ouais, résignation. Buenos Aires, plus de 14 millions d'habitants avec les banlieues. Troisième ville du continent, avec Sao Paulo, Mexico. Mais c'est la seule ville considérée comme européenne du continent. Vous nous expliquerez pourquoi, Marine. Et vous signez le programme musical de l'émission, parce que le cœur de Buenos Aires bat dans la musique. Buenos Aires qui vient de Notre-Dame du Bon Vent, en hommage aux navigateurs. C'est vous qui signez le programme musical pour ouais. Buenos Aires, la ville entre deux crises. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
On vient d'entendre la Che Grosse et le titre... j'ai oublié le nom du titre. C'est...
La Che Grosse, en tout cas, c'est...
Oui, alors la Che Grosse, elle commence à être connue en France, en plus.
Ouais. Elle est Buenos Aires. Festivals. Ses parents viennent de la province de Misiones.
Oui.
Et c'est un mélange, on l'entend là, il faut que vous nous décodiez, c'est du chamamé, de la cumbia, de l'électronique hip-hop.
Voilà, c'est un mélange à la fois de musique traditionnelle du nord-ouest de l'Argentine et de cumbia et d'électro. Et oui, elle a explosé depuis 2 ans.
Et elle est très connue aussi en France.
Oui.
Buenos Aires, une ville entre deux crises, vous nous dites, Marine de la Moissonnière, une ville tellement européenne aussi qu'on, forcément, on peut pas s'empêcher aujourd'hui de placer Buenos Aires en miroir d'Athènes en crise.
Oui, bah, les deux capitales ont vécu la même chose. C'est vrai que quand on voit que bah, jusqu'à peu à Athènes, on pouvait plus retirer de l'argent comme on voulait, forcément ça fait penser à l'Argentine, parce que c'est ce qui s'est passé juste avant la crise. C'est exactement la même chose.
Alors peut-être avant de parler de la crise, expliquez-nous pourquoi on parle de la seule ville européenne du continent sud-américain.
Bah déjà, c'est l'architecture, c'est frappant quand vous arrivez à Buenos Aires. Il y a certains quartiers où vous avez l'impression d'être à Paris. Il y a même des immeubles du 16e arrondissement de Paris qui ont été copiés tel quel en plus grand, parce qu'on en à Buenos Aires tout est plus grand qu'à Paris, les rues sont plus larges, les immeubles sont plus hauts, et donc ça c'est très impressionnant. Il y a aussi des parcs qui ont été dessinés par des paysagistes français. On dit même, alors ça c'est peut-être de la légende, que les pigeons de Buenos Aires viennent de Paris. Donc l'architecture déjà c'est très très frappant, et c'est une architecture très mélangé. Nous, à Paris, c'est vrai que les immeubles sont bien alignés, sont propres, sont droits, alors qu'à Buenos Aires, c'est le chaos. Moi, personnellement, j'y trouve beaucoup de charme à ce chaos, mais certains vous diront que c'est sale, que c'est bruyant. Il y a aussi des immeubles très, très modernes. Et c'est très intéressant pour tourner des publicités, parce que donc c'est l'hémisphère sud, donc les saisons sont inversées. Donc c'est très pratique de venir en Argentine tourner, quand c'est l'hiver en Europe, tourner les publicités d'été, et vous trouvez sans problème ben, un immeuble haussmannien typiquement parisien, un immeuble hyper moderne qui va vous faire penser à New York, et pour ça c'est assez magique. Et après, l'influence de la France, enfin de l'Europe en général, ben, ça se voit aussi
sur les habitants, la façon de vivre. Mais
déjà, ils sont tous descendants d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais, de Français.
Donc il y a des quartiers entiers où on parle italien d'ailleurs.
En fait, l'italien on le retrouve surtout dans l'argentin. Il y a plein de mots en argentin qui sont italiens, et dans l'intonation. L'argentin est très très chantant, contrairement à l'espagnol, et c'est l'influence de l'italien. Et après, il y a aussi, dans la littérature, dans la philosophie, enfin les grands auteurs français là-bas sont respectés.
Revenons à cette ville donc très européenne du continent latino-américain. Entre deux crises perpétuellement, les Argentins, vous le disiez, disent tous les 10 ans il y a une crise, peut-être pas à ce point-là, parce que depuis 2001, la crise de 2008 n'a pas été une telle déflagration, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2001, finalement, la grande crise où l'État argentin est en faillite, en banqueroute?
Oui, alors l'Argentine, c'est toujours entre deux crises, dans le sens où on est en train de se remettre, mais déjà on prévoit la prochaine, enfin on attend la prochaine. Et 2001, oui, c'était 132 milliards d'euros de dette. Voilà, le pays a fait défaut sur sa dette comme ça du jour au lendemain. Ça a été un choc pour l'Argentine, mais pour le monde entier, parce qu'on n'avait pas l'habitude de ce genre de choses. Un État qui fait faillite, c'est vrai que c'est impressionnant. Et à l'époque, il y a presque 60% de la population qui est pauvre, un quart de la population qui est au chômage. Voilà, les salaires qui sont plus versés.
Les fonctionnaires,
les gens dans la rue, des manifestations très violentes, les gens qui sortent avec les casseroles et qui tapent dans la rue pour se faire entendre, qui viennent taper sur les portes des banques, qui ont baissé leurs rideaux.
Une inflation évidemment dingue.
Petit à petit, oui, parce qu'en fait l'Argentine, contrairement à la Grèce, et c'est là que le parallèle s'arrête, c'est que l'Argentine a refusé les mesures d'austérité, a dit stop aux mesures d'austérité que le FMI lui imposait depuis 4 ans, avec le même système qu'en Grèce, c'est-à-dire qu'on vous prête, mais c'est pour que vous puissiez nous rembourser ce que vous nous devez déjà. Donc là, ils ont dit ça suffit, et l'Argentine s'est remise en route petit à petit avec...
Dévaluation en 2002 au plus fort de la crise, et ensuite, se
ensuite, avec cette dévaluation, du coup, les exportations argentines étaient moins chères et plus compétitives. Donc, les exportations repartent, notamment les matières premières agricoles et le soja. Et ça, c'est vrai que c'est le soja qui a en grande partie sauvé l'Argentine, parce qu'à ce moment-là, en plus, les cours explosent. Donc, conjonction de bons facteurs. Le Brésil à côté, avec qui l'Argentine a des très bonnes relations économiques, se remet en route aussi, donc entraîne l'Argentine dans sa suite. Et puis, le gouvernement qui décide de mettre en place une politique de la relance qui passe par l'augmentation de la demande. Donc ça passe par des mesures très concrètes, par exemple les gens qui avaient des hypothèques sur leur maison maison, on leur dit bon bah vous allez pas payer tout de suite, on vous donne un peu de temps, on augmente les aides sociales, les subventions, même encore aujourd'hui il y a énormément de subventions, mais c'est incroyable quoi sur le
j'allais vous dire finalement qu'est-ce qu'il reste de cette crise là, de cette déflagration là, qu'est-ce que les Argentins ont appris de cette crise aujourd'hui?
Bah les Argentins ont appris à s'en remettre. Alors ça leur venait déjà d'avant, ils avaient l'habitude, mais cette crise là elle a été tellement tellement forte, c'était la plus grosse, ouais, de toute leur histoire.
Rebondir, y croire, la débrouille aussi, donc au plus fort de la crise, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, cette débrouille qui circule dans le sang des Argentins.
Bravo sei menino Carlos Portugues, solte il lugar. E chicken, $1 chicken.
On est sur un marché de San Telmo, hein, Marine, là.
Oui, c'est le quartier typique de Buenos Aires, un peu le Montmartre de Buenos Aires. Et c'était un dimanche de 2009, un marchand ambulant que j'ai enregistré. On l'entend avec ses trois mots d'anglais et de brésilien. Il vend des petites poules en plastique qui font du bruit. En fait, en Argentine, il y a vraiment très peu de gens qui font la manche. Ça, c'est pas dans leur mentalité. D'une manière ou d'une autre, on se débrouille pour faire quelque chose, que ce soit vendre des stylos dans le métro, vendre des paquets de mouchoirs, vendre des CD, enfin voilà, on fait quelque chose, ou cuisiner et aller vendre voilà des gâteaux.
Est-ce que la crise de 2001 a changé aussi la façon de consommer pour les Argentins à Buenos Aires, la façon d'acheter, de se projeter dans la consommation?
Alors ça a changé jusque récemment, donc oui, au début de toute façon les gens n'avaient plus d'argent. Par exemple, les gens qui allaient faire du sport dans une salle de gym, ça c'est à Buenos Aires, c'est indispensable, tout le monde fait du sport. Les gens avaient plus les moyens de payer, et donc du coup ils ont commencé à courir dans les parcs, et des petits malins se sont dit bon alors moi je vais faire des jus d'orange pressés et je vais vendre le jus d'orange. Enfin voilà, le royaume de la débrouille, c'est comme ça. Après, ça a pas épargné les entreprises, hein, qui ont réinventé leur marketing en temps de crise. Alors concrètement, ça a donné,
et qui subsiste aujourd'hui, ce marketing.
Oui, alors ça a un peu changé. Je vous donne juste un exemple pour que les gens comprennent, parce que moi ça m'avait complètement halluciné quand tu arrivé en 2003, c'était par exemple le déodorant format familial, mais avec un parfum neutre, comme ça, le père, la mère, les enfants, tout le monde utilisait le même déodorant. Ou alors, les produits de marque, comme les gens n'avaient plus les moyens d'acheter régulièrement leurs marques qu'ils aimaient bien, les marques se sont dit, on va faire des packaging plus petits, donc du coup ça coûte moins cher, et on a toujours le plaisir d'utiliser son dentifrice d'une marque connue, voilà. Et aujourd'hui, comme l'Argentine a vraiment récupéré, on assiste depuis quelques années, depuis 3-4 ans je dirais, à comme un renversement où on est un peu reparti dans les années Menem, où c'était un peu les années nouveaux riches, les années pizza champagne on disait, où les gens buvaient du champagne en mangeant de la pizza, et où il y a une très très grosse consommation. On achète des voitures 0 km, donc c'est des voitures neuves, des écrans plats.
À crédit ?
À crédit, oui, c'est la seule manière. C'est la seule manière parce qu'il y a une inflation énorme, officiellement moins de 10%, mais c'est des chiffres qui sont totalement faux. Tout le monde le constate en faisant ses courses, c'est plutôt 25 à 30%.
25 à 30% d'inflation ?
D'inflation par an, et c'est comme ça depuis 6-7 ans.
Ouais. Buenos Aires, entre deux crises, autant de cicatrices que vous nous décrivez, Marine de la Moissonnière, qui donne, c'est vrai, une humanité à la ville avec une vraie fierté musicale. Alors je sais, vous attendez du tango, mais voici ce que les Argentins appellent du rock national.
Thank you.
Vivre dans une ville entre deux crises chez 7 milliards de voisins aujourd'hui. Comme je n'ai plus de voix, c'est Marine de la Moissonnière qui fait l'émission à ma place.
Le titre qu'on vient d'entendre, c'était Mujeres Bechas y Fuertes. Et le groupe, c'est El Mato a un Policía Motorizado.
Et donc, c'est du rock national, c'est ça?
Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ça, c'est une version un peu. Alors, je vais être méchante, mais améliorée du rock national.
Plus commercial.
Plus agréable à écouter, je trouve, personnellement. Mais le rock national, c'est quand même très particulier. On a un peu l'impression d'être resté.
Moins dur.
Dans les années 70.
Ouais, alors justement, moins dur. La vie politique est dure en Argentine, depuis longtemps. L'Argentine est en campagne électorale en ce moment.
Oui, élection présidentielle fin octobre. Mais ce week-end, c'est ce qu'on appelle les PASO, donc c'est les primaires pour désigner les candidats pour la présidentielle.
Ouais, ça veut dire que là, on approche de la fin d'une époque, l'époque du couple Kirchner qui a gouverné au total pendant 12 ans, si on additionne le mandat de Néstor Kirchner, les deux mandats de Cristina Kirchner.
Oui, ils se sont succédés au pouvoir. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand c'était Néstor Kirchner qui était au pouvoir, tout le monde disait, mais en réalité, c'est elle qui prend toutes les décisions, ce n'est que son pantin. Et puis, quand elle est arrivée au pouvoir, ça a été l'inverse, mais en fait, c'est lui qui décide de tout. Donc voilà, c'était un couple, parce que lui est mort depuis, un couple de politiciens assez mythiques, quoi. Enfin, une espèce de personnages à deux têtes, enfin, et ils ont été très aimés, parce que c'est vrai que quand Néstor Kirchner est arrivé au pouvoir, ben il a relancé le pays au niveau économique, il a aussi beaucoup fait pour les droits de l'homme.
Il est arrivé en 2003, donc au moment très dur, mais où forcément l'Argentine n'a fait que sortir la tête de l'eau.
Oui, alors il a accompagné ce mouvement, on peut pas dire que ça se soit fait juste à cause du soja et du Brésil. Il a su prendre les bonnes décisions, cette politique de relance de la demande, ben aujourd'hui elle a cette conséquence très problématique qui est l'inflation, mais en tout cas en 2004 c'était il a sauvé le pays, ça on peut pas lui enlever. Et il est très aimé aussi pour ce qu'il a fait pour les droits de l'homme, parce que c'est lui qui a impulsé les procès de la dictature, donc de 76 à 80.
Mais alors pourquoi aujourd'hui on dit beaucoup qu'il y a une cristallisation de la vie politique, une dureté dans la vie politique, dans les débats? C'est palpable aussi dans la vie quotidienne des Argentins à Buenos Aires,
impossible.
On s'engueule sur la politique.
Mais non, mais c'est impossible. Il faut même pas parler de politique, quoi. Moi, j'ai un ami français en Argentine qui me dit, moi, de toute façon, quand je suis avec des kirchneristes, je suis anti-ca. Et quand je suis avec des anti-ca kirchner, et quand je suis avec des anti-ca, je suis ca. Et ils me disent, parce que ça devient presque un jeu, tellement c'est. Mais en fait, c'est triste, parce que même quand vous lisez les journaux, vous n'arrivez pas à avoir sur un sujet un article qui soit un peu équilibré. Pourtant, les Argentins sont des gens très cultivés, il y a des intellectuels de tout premier plan, et c'est voilà.
Mais alors, qui a organisé cette cristallisation de la vie politique? C'est Madame Kirchner, femme très particulière.
Moi, je pense, c'est mon avis, mais que c'est oui une conséquence de son autoritarisme. Elle peu à peu a vraiment, développé ce côté autoritaire. Elle a pris des décisions qui, quand on les analyse de manière économique, assez rationnelle, sont assez justes, mais elle les a souvent imposées, comme ça, le fait du prince. Donc elle s'est créée des ennemis qui, s'il y avait eu un dialogue politique, un dialogue constructif, aurait pu être d'accord avec elle.
Elle a contribué aussi avec sa personnalité. Vous m'avez dit, c'est une personnalité clivante, hein, d'ailleurs, en tant que femme, à isoler ceux qui sont avec elle du reste. C'est-à-dire, vous êtes soit pour, soit contre, c'est ça?
Oui, il y a vraiment deux camps. Là, c'est assez drôle, parce que avec la campagne présidentielle, les lignes bougent un peu, parce que l'idée, c'est de récupérer des électeurs. Donc, voilà, mais c'est un camp ou l'autre.
Vous restez avec nous, Marine de la Moissonnière. Vivre dans une ville entre deux crises, Buenos Aires, ce qui n'empêche pas de danser le tango, de croire à une certaine poésie de la vie et de se coucher très tard. On se retrouve juste après le flash dans 3 minutes.
Sept milliards de voisins. On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI en série d'été avec chaque jour une ville différente et toutes les vies, bien sûr, quotidiennes qui en découlent. Aujourd'hui, vivre dans une ville entre deux crises, Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Avec vous, Marine de la Moissonnière, vous êtes présentatrice sur RFI en ce moment. Vous nous le disiez en première partie d'émission, les Argentins disent « Oh, ben, on a une crise tous les 10 ans, c'est pas tout à fait vrai parce que rien n'est comparable à la banqueroute de 2001, à la violence de la crise économique, à la récession de 2001-2002. On est dans une ville de plus de 14 millions d'habitants maintenant avec ses banlieues. On a une question d'un auditeur, Gabi, pour vous, Marine. Est-ce qu'il y a des progrès en matière de dépollution de la rivière Riachuelo? Parce qu'on,
Riachuelo.
Parce qu'on est dans une grande ville, donc bien évidemment, il y a de la pollution. Alors, où est-ce qu'on en est?
On n'en est pas très loin.
C'est-à-dire nulle part.
Oui, ça fait des années que le gouvernement promet de dépolluer ce fleuve qui est l'un des 10 fleuves les plus pollués au monde.
Oui, qui promet qu'un jour on pourra se baigner dans ce fleuve.
Voilà, hein. Oui. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des bidonvilles qui sont installés sur les rives de ce fleuve. Alors, les bidonvilles en Argentine, il faut quand même préciser que c'est du dur. Parfois, il y a même l'électricité. Voilà, c'est des conditions très précaires de vie, mais quand même, il y a des murs, des toits en chape, en métal, mais il y a quand même quelques murs. Et en fait, les gens qui vivent sur les bords de ce fleuve, sont intoxiqués par des métaux lourds, par de l'eau polluée. Donc c'est une situation qui est vraiment dramatique et les progrès sont très très lents. La Cour suprême a plusieurs fois mis en demeure le gouvernement, mais ça n'avance pas.
Et ce sont les plus pauvres qui trinquent, donc à cause des bidonvilles. Il y a des bidonvilles aussi qui sont installés sous l'autoroute.
Oui, derrière la gare routière et la gare tout court d'ailleurs de Buenos Aires à Retiro. Ouais. Et ça, c'est très impressionnant parce que c'est d'un côté, vous avez donc ces bidonvilles et de l'autre côté, des quartiers chics.
Et alors, ces bidonvilles ont des raccords à l'électricité, des raccords sauvages.
Ceux-là, oui, parce que ceux-là sont vraiment en plein centre-ville, donc ils tirent des fils et se raccordent. Donc oui, il y a l'électricité.
Il y a une politique municipale pour ces bidonvilles.
En théorie. Oui, il y a quelques, enfin il y a surtout
la mairie,
associations.
La mairie reste à droite après les élections.
Oui. Mais ce qu'il faut juste pour finir sur les bidonvilles pour que les auditeurs s'imaginent, en fait, c'est souvent des constructions, en tout cas dans le centre de Buenos Aires, très hautes, parce qu'on construit donc sa maison et puis après on construit un étage au-dessus qu'on va louer et encore un étage au-dessus et c'est des constructions assez étroites en fait avec un escalier, enfin qui est vraiment, c'est comme une échelle quoi. Donc c'est très impressionnant quand on rentre dans ces maisons. Et la politique vis-à-vis des bidonvilles, ceux justement qui sont derrière la gare et à côté de ce quartier chic, c'est des terrains qui vont valoir, qui si on les on construisait vaudraient très très cher. Et là, le dernier projet de la mairie, c'est de recouvrir ce bidonville d'un toit végétal. Donc pour aider à la dépollution de la ville.
C'est pas de la dérision ni de l'humour.
Ça fait pas du tout rire les habitants, en tout cas, qui se demandent si ils verront encore la lumière du jour, si comment feront les pompiers en cas d'incendie, parce que souvent ils passent par l'autoroute et ils accèdent directement en sautant de l'autoroute. Donc pour l'instant, d'après ce que j'ai lu la semaine dernière, ils sont en train de mettre des grillages. Après, c'est
d'accord,
pas sûr que ça arrivera jusqu'au bout.
C'est ce qui s'appelle une politique environnementale à côté de la plaque.
Voilà.
Marine de la Moissonnière, on est dans cette ville entre deux crises, bien sûr, je le sais, les voisins vous attendez du tango. C'est tout sauf un cliché, le tango à Buenos Aires.
Ouais, ça fait vraiment partie de la ville, des jeunes, des moins jeunes. C'est touristique, mais c'est vrai en fait. C'est pas qu'un mythe.
Et ça fait partie vraiment de la ville entre deux crises, entre finalement nostalgie et fatalisme.
Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. De mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. asesinada, que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigo. Llorar. Yo pregunto por qué. Sí, ¿por qué me enseñaron a amar? Si al amar te mataba mi amor.
Chanson désespérée dans la ville entre deux crises, Buenos Aires. Avec vous, Marine, vous signez le programme musical de l'émission aujourd'hui chez 7 milliards.
Oui, j'aime beaucoup cette chanson, qui est vraiment très triste, mais c'est donc la Canción Desesperada par la Orquesta Típica Fernández Fierro. C'est un vieux tango de 1945 que ce groupe a repris et qui dit notamment dans les paroles « Pourquoi m'a-t-on appris à aimer si en t'aimant je tuais mon amour ?»
Oh là.
Oui, mais c'est typique du tango, c'est dramatique à chaque fois.
Alors le tango, où le danse-t-on ? Pourquoi ? Comment ? Quand ?
On le danse partout à Buenos Aires, on le danse notamment, on parlait du marché de San Telmo, tous les dimanches soirs à San Telmo en plein air on danse le tango avec c'est pas un orchestre, c'est une chenifie quoi, une vieille chenifie et tout le monde danse. Après il y a plein d'écoles, de cours de danse, et puis il y a les milongas, donc les endroits où on danse. Donc il y en a des très connus, très touristiques, et
donc,
puis il y en a des
milongas, qu'est-ce que c'est exactement finalement?
Ben la milonga c'est souvent une salle municipale ou une salle de sport, enfin ça a vraiment rien de glamour ni de reluisant, et puis quand les lumières s'éteignent ou se font plus douces et que la musique se met en route, vous avez l'impression d'être dans un endroit merveilleux. Enfin, le tango, ça a une magie assez incroyable. D'ailleurs, il y a cette intimité avec une personne que vous connaissez pas ou peu, qui est assez troublante. Cette musique qui est
enivrante. On danse pas forcément avec son conjoint, avec son fiancé ou sa fiancée.
Non. D'ailleurs. Rarement.
Ah oui?
Rarement, oui, oui.
Donc, formidable lieu de rencontre,
ah
forcément.
Oui. Oui, ça, c'est. Mais ça a ce côté.
Internet n'a pas supplanté le tango pour trouver l'amour en Argentine.
Pas encore. Alors, peut-être chez les jeunes, mais oui, c'est vrai.
Mais les jeunes continuent de danser le tango.
Oui,
toutes les générations,
oui.
Tous les milieux sociaux.
Mmh. Ouais. Oui.
On danse le tango, y compris en pleine semaine.
Ah oui.
Bah,
ça,
vraiment.
Le concept de week-end en Argentine. Je crois qu'ils n'ont pas encore, mais il n'a pas encore été inventé.
Mais c'est-à-dire,
on sort en semaine, on sort le week-end.
Mais alors à quelle heure?
Alors en semaine, en général, on dîne vers 21h. Le week-end, c'est plutôt 22h30, 23h le restaurant. Et les boîtes de nuit, c'est pas avant 2-3h du matin. Donc souvent en Argentine, vous faites ce qu'on appelle la previa. Donc l'avant sortie, vous vous retrouvez chez des gens ou dans un bar pour boire un verre. Certains font même une petite sieste pour être en forme. Donc voilà, on peut faire la sieste à 21h, ça existe.
Ah oui,
ouais, avant de sortir. C'est dur après pour se remettre dans le bain, mais les Argentins.
Vous voulez dire le lendemain matin?
Non, juste moi j'avais du mal en faisant la sieste à 21h, à me relever à 10h pour sortir.
Pour aller danser le tango.
Voilà. Mais oui, les nuits sont folles. Enfin, la ville ne s'arrête jamais. Il y a des bus toute la nuit.
On les entend d'ailleurs là, il me semble, hein, les bus à Buenos Aires. Service de bus à Buenos Aires toute la nuit.
Toute la nuit. Mmh, formidable. Formidable. Il y en a partout. Il y a je ne sais pas combien de lignes. C'est très compliqué pour comprendre comment ça marche. Il y a un guide qui s'appelle la Guillaté qui est vraiment très compliqué à comprendre. Maintenant, avec les smartphones, c'est plus simple. Mais oui, le service de bus est génial.
Mais alors, il y a une énigme quand même qu'on n'a pas encore. Il faut que vous nous expliquiez, Marine de la Moissonnière, comment on va travailler le lendemain matin. Les Argentins travaillent.
Je ne sais pas.
Buenos Aires est une ville qui travaille.
Oui. Je vous avoue que moi, j'avais la chance d'être journaliste pigiste, donc d'organiser mes horaires comme je voulais. Mais c'est vrai que plus d'une fois, en boîte de nuit à 7h du matin en semaine, je me suis dit, mais tous ces gens-là, là, dans 2 heures, ils sont au boulot et comment vont-ils faire? Ils sont moins productifs peut-être que les Français. Mais oui.
Mais d'autres d'autant plus que dans cette ville Buenos Aires, perpétuellement entre deux crises, puisque c'est le titre que vous avez donné à l'émission, Marine, il y a beaucoup de travailleurs qui cumulent plusieurs emplois.
Oui, ça c'est aussi une des conséquences de la crise. Oui, alors c'est pas tout le monde, ça va mieux maintenant, c'est vrai que oui, il y a eu, notamment il y a eu 3-4 ans, il me semble, je suis pas sûre de la date, mais le gouvernement a voulu changer, passer à l'heure d'été et l'heure d'hiver. Et toutes les provinces n'étaient pas d'accord. Donc il y a certaines provinces qui ne sont pas passées à l'heure d'été, heure d'hiver. Et ça posait un problème pour les enseignants, parce que les professeurs sont très mal payés en Argentine. Et donc il y avait des professeurs qui travaillaient dans plusieurs écoles et donc qui devaient passer d'une province à l'autre. Et ils ne pouvaient plus parce que les horaires se chevauchaient. Donc ce projet était assez vite abandonné.
Mais deux métiers en une vie, ça obéit à la nécessité économique, notamment pour les fonctionnaires mal payés, mais pas seulement. Est-ce que c'est aussi une philosophie de vie parfois,
oui.
Cette double identité comme
mais
ça.
Quand vous rencontrez un Argentin et que vous lui demandez, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, souvent vous avez, je suis psychologue, mais j'ai aussi un restaurant ou je suis avocat et acteur. Il y a une place très importante accordée au développement personnel. L'idée que voilà, la vie c'est pas que le travail. Il y a beaucoup de cours du soir, donc ça c'est bien. Parce que vous sortez du travail à 18h et puis à 19h30 vous allez à la fac. Il y a déjà énormément d'étudiants qui travaillent tout en faisant leurs études, et des gens qui... Moi je me souviens de mon élève de français, j'avais un élève de français qui était avocat mais dans un grand cabinet d'avocat de Buenos Aires. Il avait 55 ans et il prenait des cours de français avec moi une heure par semaine alors qu'il avait un emploi du temps ultra chargé, juste parce qu'il trouvait que c'était une très belle langue. Ça lui servait à rien dans son travail. Donc il y a l'idée de faire les choses sans que ça ait une utilité.
C'est ça, on n'est pas dans une obsession de la carrière comme en Amérique du Nord, comme en Asie, une vision utilitariste en fait de l'apprentissage.
C'est vraiment pour le plaisir.
Distance et passion, la crise. Les crises ont laissé cette notion de la fragilité des choses aussi, peut-être. Buenos Aires, ville entre deux crises.
Yo me enamoré de una mujer y no le pude comunicar un montón de cosas. En français, je suis tombé amoureux d'une femme, mais je n'ai pas pu parler avec elle. Mais quand je suis retourné à Buenos Aires, je pensais que la prochaine fois, il ne pourrait pas se faire.
Vous êtes aux commandes du programme musical avec Victor Hull à la réalisation et au mixage, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
On vient d'entendre La Bonita et le groupe c'est El Remolón.
Ouais. Donc ça c'est la scène électro en Argentine, à Buenos Aires,
très
tout particulièrement.
Scène. Très bonne scène électro. Ouais,
et comment ça cohabite scène. Avec le rock national qu'on a entendu, avec le tango ?
En fait c'est des publics différents. Des choses qu'on n'écoute pas au même moment.
Oui, parce que le tango, c'est pas la musique des vieux non plus.
Non, ça c'est faux. Il y a plein de jeunes qui écoutent du tango, mais c'est assez. Voilà, il y a des publics différents. Le rock national, quand il est arrivé, il a en fait effacé un peu le tango. Il a pris la place du tango, mais même physiquement, dans les maisons de disques, on a tout jeté le tango. Et du coup, il y a une association il y a quelques années qui s'est lancée à la recherche des vieux tangos, des vieilles partitions, des vieux vinyles, pour numériser tout ça, pour constituer un fonds d'archives. Et en fait, là où il trouvait le plus de pépites, c'était dans les bennes à ordures. C'était quand un grand-père ou une grand-mère mourait, alors les héritiers faisaient le ménage, et puis ça n'avait pas d'intérêt, jetaient tout. Et donc les plus belles découvertes de cette association ont été faites dans des poubelles.
On n'a pas encore parlé, Marine de la Moissonnière, des femmes. Vous avez côtoyé évidemment beaucoup de femmes pendant ces 8 années. Vous êtes demeurée à Buenos Aires, la ville entre deux crises. Vous êtes d'ailleurs, vous avez suivi un peu ce que faisaient les filles en matière de foot féminin. Ça, c'est l'équipe de foot féminin, mais on entend des hommes dessus qui crient.
Oui, c'était un reportage dans la Villa 31, ce bidonville dont on parlait précédemment, en plein cœur de Buenos Aires. Et c'est donc une équipe féminine qui s'est constituée avec des petites filles de 12-14 ans. Et elles ont du mal à obtenir le terrain. Pourtant, le terrain leur est réservé, et réservé à leur association. Elles ont une entraîneuse, une coach. Et quand elles jouent... au moment où je faisais ce reportage, il y avait des garçons qui se mettaient à jouer, qui commentaient ce qu'elles faisaient, et c'est dur pour une fille de trouver sa place en Argentine.
Oui, la place des filles, la place des femmes en Argentine, c'est fait aussi de paradoxes.
Oui, c'est un pays très macho encore.
Un pays très macho, oui. mais ça, comment vous le perceviez, vous la violence conjugale est très présente, les faits divers très présents dans la presse argentine.
Oui, on en parle énormément. On en parle énormément. Il y a eu un vrai mouvement de mobilisation là depuis quelques mois. Il y a eu une grande manifestation le 3 juin dernier qui a rassemblé 250 000 Argentins pour dire ni una menos, donc pas plus une seule victime de violence de genre. Il y a eu énormément de faits divers, et après c'est pas le fait divers pour le fait divers, c'est juste qu'ils sont très intéressants par rapport pour comprendre la société. Il y a eu notamment le cas d'une jeune femme, Souenée, qui est morte en mars 2015. Et en fait, elle est morte 8 mois après avoir été frappée par son compagnon, donc des suites de ses blessures. Et quand les voisins ont appelé les policiers qui sont intervenus, les policiers ont déjà dit, l'ont fait marcher jusqu'au commissariat, un kilomètre, je crois, alors qu'elle a été blessée, qu'elle s'est évanouie. Et quand elle est arrivée au commissariat, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour l'énerver? Et c'est souvent ça, quand une femme va chercher refuge auprès de la police, il y a encore ce réflexe. Après, les policiers donc ne sont pas formés, sont peu nombreux, donc quand bien même un juge va interdire un mari de s'approcher de sa femme, il n'y a pas les effectifs policiers pour faire respecter cette décision judiciaire. Les juges sont machistes, mais c'est une corporation qui n'a pas du tout évolué. Même encore à la fac, ça continue. Donc on est loin, on est très très loin.
Parce que les textes existent pour punir les hommes violents.
Il y a une loi excellente qui a été votée en 2009. Et maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens financiers derrière pour faire avancer les choses. On pensait qu'avec une femme présidente, ça allait bouger, mais pas du tout. C'est pas une priorité pour elle. Il y a le Conseil général de la femme, qui est donc l'organisme censé faire avancer les choses, qui a un budget tellement faible qu'au final, c'est 8 centimes d'euros par femme. Et avec ça, on fait rien, quoi.
Vous avez connu des femmes qui étaient victimes de violences conjugales, Marine?
J'en ai rencontré, oui, pour des reportages, des femmes victimes aussi de traite. Ça, c'est très, très commun. On se souvient d'Albert Londres qui avait écrit le chemin de Buenos Aires, où c'était l'inverse. Les Européennes qui venaient se prostituer en Argentine, maintenant, c'est la route est dans l'autre sens. Il y a tout un réseau de traite, et des femmes qui arrivent, qui finissent en Espagne après, avec un système dramatique où on publie de fausses petites annonces de travail dans les journaux, et puis quand les filles arrivent, en fait, elles se font violer, frapper. Ça, c'est la première période pour adoucir les en fait, c'est pour leur faire perdre toute volonté, tout respect d'elles-mêmes, où elles sont violées, frappées.
Mais ça, pourtant, ça sort dans la presse. Alors, ce sont sont des filles de la campagne qui sont moins bien informées ou pas forcément.
Non.
Buenos Aires n'est pas épargnée par,
non, Buenos Aires n'est pas épargnée,
par cette violence-là.
Il y a des filles qui sont enlevées dans la rue, tout simplement. De tous les milieux. Ouais.
Il y a des problèmes de sécurité à Buenos Aires aujourd'hui.
Oui, il y en a. Ben, il y en a. Alors, un peu comme dans toutes les grandes villes du monde. Voilà, il faut faire attention. Il faut pas être naïf. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Et puis, c'est les mesures de précaution comme dans toutes les capitales. Pas sortir avec ses rivières de diamants.
Mais comment expliquer finalement cette condition, cette violence conjugale, cette vision aussi de la femme? Pas très valorisé, et puis en même temps un pays, enfin surtout Buenos Aires, qui est très en avance sur les questions de genre, d'homosexualité.
Oui, c'est le mariage homosexuel qui s'appelle le mariage égalitaire en Argentine. Ça fait bien longtemps qu'il a été adopté. C'est depuis 2010. Il y a aussi la loi.
Donc on peut se marier. Femme peut épouser une femme, un homme peut épouser un homme. Depuis 2010,
depuis
en toute égalité.
Oui, et avant, même depuis 2003, il y avait l'union civile.
Pourtant dans un pays très catholique encore.
Dans un pays très catholique, oui. Alors c'est un paradoxe du pays. L'avortement est interdit, mais deux personnes du même sexe peuvent se marier. On peut choisir son genre depuis 2012. Vous vous présentez à un juge et vous lui dites mais en fait j'ai un corps de femme mais je me sens homme. Voilà, bah ok, on change vos papiers d'identité. Il n'y a pas besoin d'un certificat médical, d'une évaluation psychologique.
En France, c'est un processus qui peut prendre des années avec l'administration française et parfois d'ailleurs ne jamais aboutir pour des personnes transgenres.
En Argentine, vous pouvez même avoir trois parents. Il y a eu deux cas là récemment. Le dernier cas, c'était un couple de femmes qui avait eu un enfant avec leur meilleure amie, le petit garçon, il me semble, a deux mamans et un papa. Donc là, c'est plus compliqué parce que depuis la semaine dernière, il y a un nouveau code civil qui est entré en vigueur. Mais en tout cas, la triple filiation a existé. Donc il va falloir régler le cas des prochains enfants.
Est-ce que du coup, il y a un vrai clivage entre la capitale, Buenos Aires, où effectivement, les homosexuels, ils sont très confortables, très acceptés, et puis le reste du pays, beaucoup plus traditionnel, conservateur?
Oui, il y a un décalage entre Buenos Aires, l'européenne, et le reste de l'Argentine, la provincia, comme on dit, la province, qui est plus conservatrice, c'est vrai.
Vivre à Buenos Aires, en tout cas, le week-end, que l'on soit d'ailleurs dans la capitale argentine ou dans la provincia, comme vous dites, Marine, c'est peut-être d'abord et surtout le week-end, ce que l'on appelle là-bas le chant de la viande. Écoutez. Marine, ça nous donne faim. Quel est ce crépitement?
C'est la viande, le gras de la viande qui tombe sur les braises lors d'un asado. C'est le barbecue en Argentine. Ça, c'est une institution. C'est une transmission de père en fils. Ce sont les hommes qui font l'assado. Et c'est tous les dimanches à Buenos Aires, ça sent la viande partout. Si vous n'avez pas de jardin pour mettre, vous avez votre parisha, donc c'est le barbecue, vous la sortez sur le trottoir, il n'y a pas de souci. Je me souviens même d'une fois, j'étais à Recoleta, qui serait l'équivalent du 16e à Paris en semaine.
Donc un quartier très bourgeois.
Très chic, voilà. Et il y avait des ouvriers et leur camion qui était garé. Et ils avaient sorti le barbecue, ils l'avaient mis juste en dessous, là où le camion et l'avant du camion se rejoignent. Vous savez, ça monte un peu, il y a un petit espace et ils avaient mis leur barbecue et ils faisaient cuire leur saucisse pour manger des choripanes.
Ce chant de la viande, on le déguste aussi, on l'entend en famille, on se réunit en famille ou pas forcément?
Ah oui, la famille, là c'est le côté italien qui ressort, la famille c'est très très important. Cet élève de français dont je vous parlais, je me souviens qu'un jour...
L'avocat,
il me raconte: oh là là, je vois pas souvent mes fils. Je lui disais: ah bon, mais tu les vois tous les combien? Ça avait l'air vraiment de lui peser. Il me dit: une fois par semaine. Je dis: mais moi en France, mes parents, je les vois une fois par mois et c'est déjà beaucoup. Donc oui, la famille, c'est très très important. La famille au sens large aussi, c'est les cousins. Mais c'est la famille à l'italienne, ça. Hein.
Ouais. Marine de la Moissonnière, est-ce que dans cette ville entre deux crises où il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de d'esprit positif aussi, hein. On va s'en sortir, d'autodérision aussi, peut-être de capacité à rire de ses tares, de ses malheurs. Le cinéma en témoigne très bien. Est-ce que vous songez parfois à repartir, vous installer à Buenos Aires?
Moi, j'y retourne, oui, normalement en septembre. Je sais pas pour combien de temps, mais oui, je suis rentrée depuis fin 2011 et j'y suis déjà retournée deux fois. La première fois 2 mois et demi alors que je devais y aller 4 semaines et la dernière fois 4 mois et demi alors que j'étais partie pour 2 mois.
Donc pas question de tourner la page.
Non, non, c'est
mais
pas.
Qu'est-ce qui vous manque de cette ville quand vous êtes ici en France, chez vous?
C'est sa bienveillance. C'est une ville bienveillante. Les gens sont profondément gentils et dans le respect de l'autre. Et il n'y a pas de jugement de ce que vous êtes, qui vous êtes.
Et sans arrière-pensée.
Toujours le bienvenu, oui.
Merci beaucoup, Marine de la Moissonnière, d'avoir soulevé un coin du voile sur cette ville qui, de loin, c'est vrai, nous fait tellement rêver, malgré les crises économiques, les récessions. Demain, nous quittons le continent américain pour enjamber l'Europe et nous poser au cœur d'un certain chaos organisé là aussi. Demain, vivre dans une ville mal aimée, New Delhi en Inde, raconté par Constantin Simon, correspondant pour France 24. Merci de votre fidélité. À demain, malgré ma voix.